avec l'Observatoire sociopolitique diocésain. En ce mois de septembre, nous retrouvons Olivier Drapé pour l'Observatoire sociopolitique diocésain. Bonjour Olivier.
Bonjour Alexandre, bonjour chers auditeurs de Radio Alapourdi. Je reprends donc pour cette année les chroniques bimensuelles de l'Observatoire sociopolitique diocésain et comme son nom l'indique, l'Observatoire sociopolitique diocésain se préoccupe d'analyser, de décrypter ou de tenter de décrypter l'actualité et les médias, ce qui m'amène une fois de plus à évoquer un sujet qui nous tient à cœur et qui est les dangers ou les risques qui peuvent peser sur ce que on appelle la liberté d'opinion et la liberté d'expression, qui sont un des critères et une des conditions fondamentales de la démocratie. C'est d'autant plus important, par conséquent, en période préélectorale et bientôt électorale, de se préoccuper de ce problème, et en particulier du fait que, dans notre pays, il semble que le débat d'opinion, le débat d'idées, soit de plus en plus difficile et qu'une certaine intolérance se développe à ce niveau-là. C'est ce qui avait été souligné il y a quelques mois par Gérard Leclerc sur Radio Notre-Dame, lorsque il écrivait, je le cite, « Le débat intellectuel en France est presque devenu impossible parce qu'il ne s'agit plus d'échanger des arguments, mais de réduire l'adversaire au silence. » Ce en quoi d'ailleurs il rejoint un journaliste essayiste, Jean Birnbaum, qui dirige Le Monde des livres, dans la mouvance donc du quotidien Le Monde. Jean Birnbaum écrivant lui-même « Au-delà même de Twitter ou de Facebook, le champ intellectuel ou politique se confond avec un champ de bataille où tous les coups sont permis. Partout, de féroces prêcheurs préfèrent attiser les haines plutôt qu'éclairer les esprits. » Il convient donc de constater avec ces deux personnes que je viens de citer qu'effectivement on a de plus en plus de mal d'échanger sereinement des arguments, d'autant plus quand on a affaire à des chroniqueurs, des journalistes, des personnalités, des individualités qui ne sont pas nécessairement politiquement correctes et qui parfois d'ailleurs se complaisent dans une certaine provocation. En tout cas, il est certain que tout discours qui n'est pas conforme à la morale dominante, à l'opinion dominante, au discours politiquement correct, comme on dit, est sans doute l'objet non seulement de critiques, ce qui est tout à fait légitime, mais très souvent et de plus en plus souvent d'une volonté de censure. J'appelle politiquement correct, de manière un peu caricaturale, le temps ne me permettant pas de développer tout en nuance ce genre de concept, un certain discours officiel qui sera sur certains sujets très conforme à la nécessité, par exemple, d'une transition écologique avec le problème du réchauffement climatique, mais aussi qui sera favorable à l'accueil des migrants, favorable à l'immigration, à l'avènement même d'une société pluriethnique, multiculturelle. Un certain discours officiel antiraciste et de plus en plus souvent anticolonialiste. Une certaine conception de l'égalité homme-femme qui, en fait, consiste plutôt à défendre une indifférenciation des sexes dans la continuité de ce qu'on a appelé à un moment donné la théorie du genre, les revendications LGBT, trans, une certaine insistance sur le droit fondamental à l'avortement libre et gratuit, etc., etc. Il est évident que les personnes qui ne sont pas dans cette doxa, très répandue et dominante dans les médias classiques, s'expose de plus en plus à une censure pure et simple. On peut donc se demander si on n'arrive pas petit à petit, au détriment d'une libre confrontation des opinions, à une sorte de délit d'opinion. Et ce qui me fait dire cela, c'est un certain nombre d'exemples que je tire de l'actualité. Ce qui m'avait frappé il y a quelques mois maintenant, c'est les réactions qui ont entraîné la diffusion par la chaîne C8, je crois, d'un film qui était un film pro-vie anti-avortement qui s'appelle Unplaid, qui est non planifié, si vous voulez, qui est diffusé par Sage Distribution en France, que les grandes salles de cinéma n'ont pas voulu en France distribuer, mais qui a été diffusé le 15 août dernier, si je ne me trompe, sur cette chaîne de télévision. Et cela a entraîné effectivement des réactions qui me paraissent complètement disproportionnées et hystériques de la part de tout un lobby favorable à l'avortement. Pour une fois, un film n'était pas une propagande pro-avortement, mais plutôt considéré comme un film anti-avortement. Et il y a eu un déchaînement tel, d'ailleurs, que même certains ministres, au-delà du planning familial, comme Mme Schiappa, Mme Moreno, ont considéré, ont brandi la menace d'interdire ce genre de film, en considérant qu'il était constitutif du délit d'entrave à l'avortement qui a été voté il y a quelques années, alors qu'en réalité, bien évidemment, ce film ne peut pas être considéré comme un délit d'entrave d'accès à l'IVG. Simplement, il repose, qu'on l'approuve ou qu'on le désapprouve, il repose sur le principe de la liberté d'expression. Ce que rappelle d'ailleurs le Conseil constitutionnel, qui avait été très clair sur ce point lorsque la loi sur le délit d'entrave avait été votée, la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout support ne saurait être regardée comme constitutive de pression, sauf à méconnaître la liberté d'expression, avait dit le Conseil constitutionnel le 16 mars 2017. Donc, qu'on ne soit pas d'accord avec ce film, eh bien on peut ne pas le regarder, on peut même le critiquer, on peut le dénigrer, mais prétendre l'interdire ou interdire la diffusion de ce type de film qui ne sont pas dans l'idéologie dominante aujourd'hui favorable à l'avortement, me paraît inquiétant. On peut citer bien sûr d'autres exemples, et il y en a un qui me vient à l'esprit, évidemment, qui est ce qu'on pourrait appeler l'affaire Éric Zemmour. Il est difficile de n'en rien dire. On peut aimer ou ne pas aimer Éric Zemmour, on peut approuver ou désapprouver, voire désapprouver absolument et radicalement les idées, les opinions qu'il défend, notamment sur CNews, libre à chacun donc de le suivre ou pas, mais en l'occurrence, on s'est rendu compte depuis un certain temps qu'il s'agit de la part d'un certain nombre de structures et de personnes de le faire purement et simplement faire taire Éric Zemmour. C'est le sentiment qu'on a quand on voit les réseaux sociaux qui, par exemple, c'était le cas d'Instagram il y a quelque temps, avait suspendu son compte sans même justifier cette décision. Plusieurs personnalités se sont étonnées, bien entendu, de la décision du CSA de comptabiliser le temps de parole d'Éric Zemmour, comme si nous étions déjà en campagne électorale, ce qui n'est pas le cas officiellement, comme s'il était déjà déclaré candidat à la présidence de la République, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a donc eu des réactions, effectivement, assez significatives, dont le communiqué de CNews. Bien qu'Éric Zemmour ne se soit pas déclaré candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu dans 7 mois, le CSA, par sa décision du 9 septembre, contraint CNews et Éric Zemmour à ne pas pouvoir continuer les missions qu'ils faisaient ensemble. Autrement dit, effectivement, on a le sentiment à tort ou à raison qu'on a voulu non pas contrecarrer, réfuter les idées défendues par Éric Zemmour, mais purement et simplement le censurer et le faire taire. En tout cas, c'est le résultat, semble-t-il, de cette décision. Alors, les réseaux sociaux, les GAFAM sont très souvent mis en cause dans cette affaire de censure. On a l'impression que cette censure ne vient pas nécessairement des pouvoirs publics, mais finalement de structures et sociétés privées que sont ces grands réseaux sociaux. C'est vrai que les exemples abondent de mesures qui ont été prises contre un certain nombre de personnalités qui s'exprimaient de manière non conforme au langage officiel. C'est ce que dénoncent d'ailleurs aussi 600 personnalités le 30 août dernier qui ont publié une tribune pour dénoncer la censure sur les réseaux sociaux et de manière plus large. Et je me permets de citer ce passage qui me paraît intéressant. C'est à propos de la politique sanitaire actuelle. A-t-on encore le droit, d'exercer son esprit critique en France, s'interrogent ces personnalités dans ce texte du 30 août. Aucun d'entre nous n'aurait cru possible que nous nous voyions se dérouler sous nos yeux depuis un an et demi ce qu'on a observé, c'est-à-dire qu'il n'existe plus aucune place au débat contradictoire, disent-ils, pour qui ne répercute pas la communication gouvernementale du gouvernement. Il ne saurait être pourtant interdit, disent-ils, de discuter les origines du SARS-CoV-2, ni interdit d'interpréter les statistiques de mortalité. Il ne saurait être interdit de dire que le refus de soigner précocement les personnes contaminées est un dogme imbécile, ni interdit de dire que les confinements font plus de mal que de bien aux sociétés, ni interdit de questionner l'influence des richissimes industries pharmaceutiques, ni interdit de contester que l'on vaccine par contrainte ou par chantage les enfants et les adolescents, ni interdit de demander que l'on attende pour vacciner certaines catégories de personnes à risque, les femmes enceintes par exemple, ni interdit de manifester tous les samedis, etc., etc. Il est certain qu'il y a des libertés qui ne doivent pas être mises en cause, qu'on soit sur le fond d'accord ou non avec les signataires, qui ne sont d'ailleurs pas n'importe qui, puisque parmi eux se trouve par exemple Laurent Mucchielli, sociologue et directeur de recherche au CNRS, et de nombreux professeurs de médecine qui mettent le doigt sur un problème crucial.
Merci beaucoup Olivier Drapé, nous vous retrouverons dans 15 jours. Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92.